France Culture. Le journal, Marie-Hélène Duvigneau.
Bonjour à tous, il est 9h. L'Ukraine propose à la Russie de nouveaux pourparlers la semaine prochaine. La Russie qui ne fait pour l'instant qu'intensifier ses bombardements sur l'ensemble du pays et son offensive terrestre dans l'Est. Les combats ont cessé à Soueïda, c'est ce qu'affirme le gouvernement syrien après la reprise de la ville par les Druzes. Mais face aux violences, l'inquiétude monte dans cette communauté druze. Un succès qui ne doit pas remettre en cause la promulgation de la loi, selon le sénateur LR Laurent Duplomb. La pétition demandant l'abrogation de son texte sur l'agriculture a recueilli plus de 700 000 signatures. Et puis, la France, une nouvelle fois mise en demeure de respecter la directive européenne sur l'eau potable. Elle a 2 mois pour répondre et remédier aux manquements relevés par Bruxelles. L'Ukraine propose à la Russie de tenir de nouveaux pourparlers la semaine prochaine, annonce hier du président Volodymyr Zelensky, quelques jours après avoir obtenu de Donald Trump la reprise des livraisons d'armes américaines. Pas de réponse pour l'instant de Moscou, qui poursuit ses bombardements sur les villes ukrainiennes, y compris Kiev, et son offensive terrestre dans l'est du pays où ses troupes avancent lentement mais régulièrement. Malgré cette progression russe, certains Ukrainiens vivant à quelques kilomètres de la frontière russe, dans des villages presque entièrement détruits, ont décidé de rester. Bastien Bory est allé à leur rencontre à Krasnopilia, à l'extrême est de l'Ukraine.
Trouver des civils à Krasnopilia à l'aube n'est pas difficile. Depuis la rue, il suffit de repérer les rares salles à manger encore pourvues de lumière. À 63 ans, Petro nous accueille chez lui. Ses yeux d'un bleu perçant ne suffisent pas à raviver sa mine triste.
Avant, on avait tout. On allait passer une bonne retraite avec de l'eau, du gaz, de l'électricité. Mais non, les barbares sont arrivés et ils ont tout détruit, tout rasé.
Il est 7h du matin. D'ici peu, et comme ils le font quotidiennement, des drones russes chargés d'explosifs viendront fendre l'air de ce village où Larissa, une amie de Petro, est de passage.
On est tellement proche des Russes qu'on arrive à les voir sans jumelles. Les frappes d'artillerie sont constantes et leurs drones nous survolent comme s'ils étaient chez eux.
4500 habitants avant la guerre, 150 aujourd'hui. Krasnopilia a été rendu invivable par des bombes russes d'une demi-tonne. Plus d'école, ni d'hôpital, ni de commerce. 80% des infrastructures sont détruites. En visite chez une amie, Alina a fait le choix de s'en aller.
Depuis, je travaille pour une entreprise qui répare les canalisations pour que l'eau arrive de nouveau dans ces zones bombardées. Je comprends ceux qui sont restés ici. Ils n'ont aucune aide, donc ils n'ont nulle part où aller.
Pendant ce temps, la Russie est en train d'amasser plusieurs dizaines de milliers de soldats à quelques kilomètres de là avant une potentielle offensive cet été.
Bastien Bory à Krasnopilia, dans l'est de l'Ukraine. C'est le gouvernement syrien qui l'assure ce matin. Les combats ont cessé à Soueïda après la reprise de cette ville du sud du pays par les Druzes et le redéploiement des forces de l'État dans la région. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les violences entre groupes druzes et bédouins sunnites qui ont éclaté le 13 juillet ont fait près de 940 morts. Et même si le retour au calme se confirme à Soueïda, l'inquiétude monte au sein de la communauté druze majoritaire dans le sud de la Syrie. Illustration avec ce reportage de notre correspondant à Damas, Mohamed Erami.
Les combats dans le sud de la Syrie réveillent les peurs dans d'autres régions. À Damas, Amar ne veut plus prendre de risques. Il cherche à fuir la Syrie au plus vite.
On va quitter la Syrie. Quelles sont les options? On n'a pas de solution. Au Liban, on a des proches, du côté de ma mère. C'est notre meilleure issue. Moi, j'aurais préféré rester en Syrie. Mais avec ce qui se passe, cette guerre, cette terre, ces massacres qu'on voit partout.
Il a quitté Sahnaya il y a 2 jours, une ville déjà marquée il y a quelques mois par des violences entre groupes armés. À Damas, d'autres Druzes disent vivre dans la peur au quotidien. Sa mère, originaire de Soueïda, est l'un d'entre eux.
Les gens sont en train de mourir, ils sont barricadés chez eux, il n'y a plus de nourriture, ils n'ont presque plus d'eau. Je n'ai aucune nouvelle de mes proches qui vivent dans le centre-ville.
Sa mère travaille dans un hôtel du quartier huppé de Mézé, à Damas. Il dort désormais sur place, trop effrayé à l'idée de rentrer chez lui le soir, de peur d'être arrêté ou pris pour cible.
Il faut une intervention internationale, que de l'aide soit apportée. Les nôtres sont en train de mourir de faim sur place.
Selon plusieurs témoins joints sur place, les affrontements se poursuivent, malgré les appels à la désescalade.
Le procès de l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro, jugé pour tentative de coup d'État, à l'origine d'une crise diplomatique et commerciale entre les États-Unis et le Brésil. Depuis vendredi, Bolsonaro est obligé de porter un bracelet électronique et il lui est interdit de recourir aux réseaux sociaux. En réaction, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a annoncé la révocation des visas pour les États-Unis de l'ensemble des juges qui siègent au procès et de leurs parents proches. Donald Trump menace lui d'imposer des droits de douane de 50% aux produits brésiliens en soutien à l'ancien président. Une surtaxe applicable au 1er août dénoncée par l'actuel président brésilien Lula, qui parle de sanctions arbitraires et de chantage inacceptable. France Culture, 9h05, l'actualité en France avec la pétition contre la loi Duplomb qui franchit la barre des 700 000 signatures. Une première qui ouvre la voie à une discussion sur le bien fondé de cette loi, mais pas à son réexamen. Ce texte prévoit notamment la réintroduction à titre dérogatoire et sous condition d'un pesticide interdit en France mais autorisé en Europe. Il se veut aussi une réponse à la colère des agriculteurs au cours de l'hiver 2024 et une manière de lever les contraintes à l'exercice de leur métier. Dans la pétition, ce texte est présenté comme une aberration scientifique, éthique, environnementale et sanitaire. Invité ce matin de nos confrères de France Info, l'auteur de cette loi, le sénateur LR Laurent Duplomb, a réagi au succès de la pétition, une réaction sans vraiment de surprise.
Je ne dis pas que c'est négligeable, je dis que l'opposition s'exprime. C'est d'ailleurs pour cela qu'a été faite cette pétition. Derrière, il y aura un débat qui sera sûrement organisé à l'Assemblée nationale pour redire malheureusement ce que nous avons dit pendant 6 mois. Moi, je veux bien tout entendre, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on fait courir une concurrence déloyale aux agriculteurs français. On en fait des boucs émissaires parce que d'un côté, on leur dit « vous ne pouvez plus avoir aucun moyen de production », mais par contre, on vous livre à la concurrence de vos voisins, les Allemands, les Italiens, les Espagnols, puisque eux vont pouvoir utiliser des produits qui vont leur permettre de pouvoir continuer d'avoir une forme de rentabilité économique et de rendement. Alors j'entends bien Madame Sandrine Rousseau qui dit qu'elle n'en a rien à péter de l'économie des exploitations agricoles. Mais en fait, la réalité de ce que demande aujourd'hui l'écologie, et ce que les gens ne comprennent pas obligatoirement dans les 700 000 signatures, c'est que c'est la fin de l'agriculture française.
Le sénateur LR Laurent Duplomb, auteur de la loi agricole controversée, invité ce matin de France Info. Des CRS déployés hier soir dans le quartier populaire du Val-de-Laurence à Limoges au lendemain d'affrontements entre une centaine d'individus cagoulés et armés et les forces de l'ordre. 9 policiers ont été blessés. Le maire de Limoges, le LR Émile Roger Lamberti, dénonce une guérilla urbaine et l'envie de détruire. La France, une nouvelle fois mise en demeure de respecter la directive européenne sur l'eau potable. Elle vient de se faire épingler par la Commission européenne pour des manquements dans la surveillance de la qualité de l'eau, l'évaluation des risques des installations privées de distribution et l'information du public. Et ce n'est pas la première fois que la France est pointée du doigt par Bruxelles, Léonore Claude.
Les rappels à l'ordre ne datent pas d'hier. En octobre 2020 déjà, les pouvoirs publics se faisaient épingler, puis l'été dernier, les efforts français ayant été jugés insuffisants par la Commission européenne. En cause, les taux de nitrate trop élevés dans notre eau potable. 99% des eaux potables françaises frôlent en permanence la limite réglementaire, car les taux de nitrate ne doivent pas dépasser 50 mg par litre, selon le service public Eau France. Au-delà de la limite fixée, les nourrissons risquent une maladie entraînant une mauvaise assimilation de l'oxygène. Cette pollution de l'eau, on la doit notamment au rejet de l'agriculture, à la production d'énergie carbonée ou encore au rejet industriel. Un rapport de 2024, rédigé par les inspections des ministères de la Santé, de la transition écologique et de l'agriculture, détaillait les manquements. Mauvais suivi de différents pesticides, mauvaise répartition des missions entre agences de l'eau et toujours pas d'interdiction de répandre des pesticides au-dessus d'aires de captage. L'exécutif dispose de 2 mois pour répondre à cette mise en demeure. En cas de retard, la commission pourra émettre un avis motivé. Entendez par là une demande formelle de se conformer aux droits européens. Et le pays devra donc rendre des comptes devant la Cour de justice de l'Union européenne. Les limitations européennes ont pour but de réduire les taux des perturbateurs endocriniens et les microplastiques dans l'eau du robinet. Une mesure de santé publique qui s'inscrit dans le pacte vert, objectif zéro pollution d'ici 2050. Pour le moment, le ministère de la Transition écologique assure que des arrêtés sont en cours pour définir des points de prélèvement sensibles. Ils devraient être publiés d'ici fin 2025.
Plus de 50 000 personnes se sont baignées dans la Seine depuis l'ouverture le 5 juillet de 3 bassins à Paris. C'est ce qu'indique Marie Barsac, la ministre des Sports, qui salue le succès de l'opération malgré 4 jours de fermeture en raison d'intempéries, et ce, dès le lendemain de l'inauguration des 3 bassins. Le temps, aujourd'hui, souvent nuageux avec des averses localement orageuses, sauf près de la Méditerranée. 6 départements du Nord-Est seront en vigilance orange aux orages cet après-midi. Les températures au meilleur de la journée, 20 à 25 degrés du Poitou-Charentes au Hauts-de-France, 24 à 29 du Grand Est à l'Aquitaine, 30 à 32 près de la Grande Bleue, 26 à 31 sur le reste du pays.